Laurent de Wilde et pas de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Bonjour à tous, il est 14h sur Art District Radio et comme chaque semaine, eh bien, on retrouve Serge Mariani dans Jazz Interview. Bonjour Serge.
Bonjour Julie. Oui, oui, en effet, Jazz Interview, toujours avec trois sets, trois séquences. J'ai envie de dire trois mouvements aujourd'hui, on va voir pourquoi.
Et puis un seul invité aujourd'hui.
Et mais un de seul choix, invité, de choix. Mais lequel? Alors je dois avouer un truc, c'est que je ne voulais pas faire cette interview en fait. Vraiment, hein, je suis sincère. Converser avec un musicien qui porte le nom de la région où je suis né. Et mon prénom idéal de rêve, c'était trop me demander. Et puis par pure conscience déontologique, hein, ayant prêté un genre de serment un peu hypocrite quand même, affirmant qu'un critique de jazz écoute tous les disques reçus, j'ai fait tourner l'album Le Sec et la Lune sur mon lecteur de CD. Et là, patatras, l'effet voix des sirènes, hein, comme chez Homer, hein, l'aède grecque, hein, pas celui des Simpsons. J'ai été envoûté, marabouté, séduit, ensorcelé. Quand on joue de la contrebasse et qu'on intitule deux de ses œuvres enregistrées sur son nouvel album La danse du poulpe et Le Sec et la Lune, le fameux éponyme, le voici, le voilà, on attire déjà un peu l'attention du critique blasé qui a déjà supporté une cinquantaine de créations géniales depuis le lever du soleil. Après cette fameuse première écoute, je nage dans les eaux profondes de l'imaginaire mélomane de François Poitou, car c'est lui. Il m'a expliqué lui-même le sens de son titre Le Sec et la Lune, nous allons en parler en détail un peu plus tard. Une musique fluide, aquatique, marine, une musique onirique dans une veine poétique telle que le philosophe Bachelard en a développé le thème, une musique philosophique en fait. Pour des raisons physiologiques, en revanche, je ne pourrais pas suivre François Poitou dans l'une de ses expéditions sous-marines. En revanche, le risque est nul pour une exploration de son univers musical et c'est heureux. Bonjour François Poitou.
Bonjour.
Ça va bien ?
Très bien.
J'étais un peu en apnée là. Hein.
Ouais, surtout après une telle introduction.
Bah voilà, mais non, faut dire des trucs. Hein. Voilà. Bon, oui, c'est ce que je ressens, je ne mens pas.
Non, mais c'est très bien dit.
Voilà, bon. Ce qui est bien fait aussi, c'est la musique du nouvel... C'est le deuxième en plus.
C'est le deuxième, oui.
Ouais, ouais. Nouvel deuxième album de votre propre création, avec le quintet. Je ne sais plus si c'était la même équipe
quasiment,
à bord.
Quasiment. Franchement, on avait un violon en plus en fait sur le premier album.
D'accord.
L'idée, c'était, il y avait une petite idée d'avoir une sorte de quatuor à cordes complet, donc avec les deux violons.
Ouais.
Et qui s'est un peu une idée qui s'est un peu étiolée au fil du temps et c'était un peu plus simple d'être à cinq et donc l'équipe s'est un peu resserrée, mais sinon c'est vraiment les mêmes.
D'accord. Oui, parce qu'en fait, vous dites quatuor à cordes, donc c'est vraiment... En fait, on est quasiment tout près de la musique de chambre avec vous.
Bah, c'est un peu l'idée, ouais. L'idée, c'était de... En fait, moi, j'ai fait beaucoup de jazz sans batterie en trio, guitare, contrebasse, saxophone,
uh-huh.
ou piano. Et l'idée, c'était de... En fait, j'aimais bien la formule assez libre, rythmiquement, harmoniquement. C'était assez sympa, je trouve. Et l'idée, c'était de rapprocher cet univers du quatuor à cordes. Et en fait, d'où l'idée de prendre une clarinette basse qui a la même tessiture qu'un violoncelle. Donc quelque part, on a les deux violons, l'alto, le violoncelle, clarinette basse, et guitare contrebasse, c'était la partie plus jazz. Ouais. Et l'idée de base de l'arrangement, qui était d'abord une sorte de challenge en fait. Au début, une sorte de challenge d'arrangeur. En fait, on s'est rendu compte que ça marchait bien et on a fait deux albums.
Ouais, bah oui, ça marche plutôt bien, oui, en effet. Ouais. Alors, j'ai lu évidemment dans la biographie consacrée que vous étiez venu à la musique assez tard, c'est-à-dire en fait, si on veut faire la chronologie.
Alors en fait, non, je ne suis pas venu à la musique tard, c'est plutôt que je suis devenu musicien professionnel tard parce que j'ai commencé la musique tôt.
Oui, c'est pas pareil.
Un peu comme tout le monde, mais sauf que. Enfin, un peu comme tout le monde, comme beaucoup de musiciens. Mmh. Et en fait, j'ai fait des études.
Alors ça, j'ai pas bien compris. Il y a deux choses. J'ai l'impression qu'il y a deux univers où c'est moi qui ai mal compris. J'ai lu quelque part que c'était un diplôme d'ingénieur en physique du solide.
Oui.
C'est ça, c'est vrai ça.
Oui,
c'est
oui.
Bon. Enfin, j'imagine. Oui, c'est écrit dans la bio officielle. Donc. Et puis il y a une histoire de finance aussi.
Oui, oui. Bah après.
Donc, la physique du solide, c'est la finance.
Comme quoi, j'ai pas changé qu'une seule fois d'univers. Non, en fait, j'ai fait une école d'ingénieur et j'étais plutôt dans la physique du solide et Enfin, voilà, on va dire, j'ai fait un DEA de physique à la fac de Lille. J'hésitais à faire une thèse, etc. Bon, je savais pas trop où je voulais aller.
Tout en jouant de la contrebasse.
Tout à fait. Et en fait, c'est des matières où on fait pas mal de maths et d'informatique. Et j'ai trouvé un boulot un peu par hasard dans une banque où il y avait beaucoup de maths et d'informatique. Et je me suis retrouvé là-dedans et j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai fait ça quelques années. Voilà, jusqu'à notre fameuse crise de 2008 que l'on connaît tous.
Ah bon?
Oui, non, mais c'est
la vraiment... crise de 2008. Attendez, je réfléchis. C'est quoi?
Qui dit crise de 2008, les subprimes,
oui,
plan
moi,
social.
Moi, j'ai un problème de mémoire, moi.
Plan social, et donc j'ai pris le plan social, je suis parti, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment.
Ah
hein.
Oui, la crise de 2008.
Oui.
La crise de 2008.
Oui, la crise.
Je croyais que c'était un truc personnel.
Ah non, j'ai pas fait de crise, moi, en 2008. Ah, enfin, si, okay. j'ai quitté un métier plus rémunéré, on va dire.
Pardon, oui, d'accord. Oui, ça nous arrive à certains, oui, à un moment ou à un autre. Oui, d'accord. C'est vrai que la finance est assez consommatrice d'ingénieurs en toute catégorie, un petit peu. Ouais. Et la musique?
Et ben la musique.
Il y a beaucoup d'ingénieurs en musique?
Ah, bah, je suis pas le seul.
De plus en plus, je crois.
Ouais, je suis pas le seul. Hein. J'en connais quelques-uns. Mmh. Je me rappelle, j'avais eu cette discussion avec. Parce que j'ai fait le CMDL après.
Oui, voilà.
Et
avec Lockwood, donc.
Oui, avec Olivier Huttman, je sais plus. Je crois qu'il est ingénieur aussi, avec Olivier Huttman qui est pianiste, mais bon, qui n'est pas la même génération. Mais je sais plus ce qu'il a fait, mais je crois qu'il a une thèse en je sais plus quoi, en sciences aussi, je crois.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit récemment que notre ami, comment s'appelle-t-il, Herbie Hancock, aussi aurait fait des études scientifiques. Avant de. Pourtant, on a l'impression qu'ils sont nés avec un piano ou autre instrument de jazz, de biberonné. Et puis, bah, non, pas toujours, justement. Donc, ouais.
Ouais, c'est.
Donc, on peut quand même, ceux qui nous écoutent qui ont des enfants ou qui s'interrogent un peu, bon, voilà, c'est possible, quoi, de faire un peu les deux, de mener des études assez loin en plus. Et puis, bah, tung, un moment, tic, on switch et hop.
Après, ça demande un peu du travail. Hein. Enfin,
bien sûr, oui. Non, bien sûr.
Ça demande un peu de travail.
Mais justement, à l'époque où vous étiez encore étudiant, François, vous jouiez régulièrement dans les clubs, etc., les jams et tout ça.
Oui,
bien sûr.
Oui, et puis c'est vrai que, pour parler basiquement, il faut aussi que l'entourage personnel accepte aussi ce genre de... Parce que c'est vrai, hein, on passe quand même du temps dessus, donc bon. Si on a une compagne qui veut nous voir tout le temps de 24 heures sur 24, c'est compliqué.
Ouais. Musicienne?
Pas du tout.
D'accord. Bon, je ne vais pas être indiscret, donc je ne le serai pas. Et est-ce que, avant de faire une première pause, est-ce qu'on peut se demander, est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous voulez bien répondre, c'est pourquoi la contrebasse?
Alors,
merci.
non, mais sincèrement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de belle histoire derrière tout ça. En fait, moi, à la base, j'ai fait de la basse électrique. Je me suis mis à la contrebasse après, un peu plus tard. Et j'ai commencé, donc, après le solfège, etc., j'ai fait de la basse électrique. Et la basse électrique, c'était un peu parce que tous mes copains faisaient de la guitare.
Bah,
et que moi, je dis, ouais, je vais faire de la basse.
Oui,
et puis, il y a Jaco Pastorius, c'est sympa. C'est sympa la basse électrique, c'est sympa le jazz. Mes parents, à la même époque, j'avais 12-13 ans, ils me ramenaient à Marciac. Je commençais à découvrir le jazz.
Bien sûr. Ouais.
Et en fait, très rapidement, donc un peu avant 20 ans, je me suis mis à la contrebasse. Mais c'est à la base c'est parce que il y avait un poste à prendre, quoi. C'était un peu ça, hein. mais honnêtement j'ai beaucoup aimé les deux instruments très rapidement.
On était quand même dans le domaine de la basse.
Ouais.
C'était pas genre j'ai fait de la batterie, je voulais faire de la batterie ou du piano et puis j'ai fait de la contrebasse.
Non.
D'accord. Alors là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de basses. Et puis, c'est un autre instrumentiste qu'on va écouter dans cette première pause. Egyptian Riot, c'est le titre. Et c'est une composition, n'est-ce pas, de Sylvain Rifflet, qui est plutôt un saxophoniste. Il a peut-être fait des études d'ingénieur, lui.
Ah, je ne sais pas.
Je me demande. Bon, enfin, en tout cas, il est musicien et ô combien. Et sur un album qui s'appelle Refocus, Egyptian Riot, la manifestation, l'émeute égyptienne. On écoute ça maintenant et on se retrouve tout de suite après, François Poitou.
Thank you.
C'était donc Egyptian Riot de Sylvain Riflet. C'est un album qui s'appelle Refocus. C'est le tout nouveau, hein, c'est ça, hein, François, je crois. Parce qu'il l'a joué récemment. Là,
Alors après, il a plusieurs projets. Donc peut-être qu'il a sorti autre chose avec un.
Il y a beaucoup de
peut-être,
choses.
Peut-être, ouais. Mais en tout cas, cet album-là qui est sorti en 2017, qui est un hommage à l'album Focus de Stan
voilà,
Getz.
Voilà, c'est ça, exactement.
En fait, je sais pas, j'ai eu une attention particulière pour cet album parce qu'on était avec mon premier album. albums sur les 10 albums des Un Rock de l'année jazz français. Et donc, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça le travail exceptionnel. Enfin, les compos, la musique, les arrangements de Fred Palem.
Absolument. Parce qu'il y a des cordes.
Voilà, et avec l'orchestre Appassionata, je crois. Et j'ai trouvé que c'était une réussite, et notamment pour justement l'ajout de la batterie, parce que justement, contrairement à ce que je fais, il y a le côté cordes, orchestre. Alors là, on n'est plus vraiment sur de la musique de chambre, mais en tout cas, il y a une batterie qui a été ajoutée à l'orchestre, et je trouve que ça marche super bien. Et voilà, j'adore
ça. Ça fait
ce
envie d'ajouter la batterie chez François Poitou ou pas?
Pas pour l'instant.
Ou des rythmes, maintenant il y a tellement de moyens de faire des.
Oui,
des,
oui,
des
après
rythmes,
ça, par contre, on travaille dessus. C'est-à-dire que faire du rythme avec des pids, avec de la contrebasse, avec de la guitare, avec plein de choses, ça, on travaille déjà dessus. Il y a déjà des morceaux où c'est un peu le cas, on pourrait peut-être en faire plus. Mais je crois qu'à court terme, en tout cas, c'est pas prévu d'intégrer un batteur. Mais...
Et alors, si je n'ai pas eu des hallucinations, à la fois visuelles et auditives, j'ai cru comprendre que la fille de Sylvain joue de la contrebasse, parce qu'elle est venue sur le dernier titre. Moi, j'étais à un concert récemment, sur un dernier titre, et il a dit que c'était sa fille, et c'était Florent Nice qui était juste derrière elle, qui l'a coaché un peu, la petite, elle était vraiment...
Ah, là, ça, je savais pas.
Bah voilà, donc à moins que je délire complètement, mais je ne pense pas, je vérifierai.
Je connais bien son frère, Sylvain Riflet.
Mais voilà, donc en tout cas, oui, il y avait Sylvain Riflet. Donc ce morceau Egyptian Riot qu'on a entendu il y a quelques minutes. Un peu plus tard, on va entendre autre chose, toujours les choix de François Poitou. On est avec lui pendant encore de bonnes minutes, longues minutes encore, on espère, pour parler du sec et la lune. Alors, avant de s'y consacrer vraiment complètement, j'aimerais quand même qu'on évoque le titre.
Avec plaisir.
Parce que, alors justement, j'ai un peu dans l'introduction, l'ouverture, si on s'en souvient, ce qui n'est pas forcément indispensable, mais sûr, évoqué l'univers marin. Et là, on est en plein dedans, et en particulier l'univers de la plongée. C'est ça, hein ?
Alors, oui, en tout cas, on est dans l'univers sous-marin et moi, c'est un souvenir de plongée. En fait, un sec, c'est un peu le côté un peu obscur du titre. C'est parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un sec.
Ah bah, enfin, oui,
c'est une expression, je ne sais pas si c'est une expression de plongeur. En tout cas, c'est une expression du monde sous-marin. Un sec, c'est un récif immergé. Donc, c'est une sorte de gros caillou sous l'eau, en fait. Et quand on fait de la plongée, souvent, on plonge sur des récifs immergés. Donc, en Méditerranée, il y a vraiment beaucoup de plongées qui sont intitulées le sec de machin, le sec.
C'est la façon de nommer l'endroit. Quoi.
Et un sec, ça désigne un récif immergé.
D'accord.
Et en fait, c'est le titre donc, qui m'est venu d'abord pour un morceau. C'est d'abord le titre d'un morceau. C'était un peu un souvenir d'une fin de plongée en fin d'après-midi à Porquerolles, où une plongée sur un sec, donc c'était le sec de la Jaune Garde. Pour être exact. Et en fait, en sortant de plongée, une plongée magnifique à Porquerolles, où grâce aux efforts pour conserver un parc national, ça reste très beau sous l'eau. Et quand on sort de plongée, je vois la lune, on plonge sur un sec, on sort la tête de l'eau, on est un peu bercé par les vagues. La plongée, c'est un côté un peu, je sais pas comment dire, on sort un peu groggy du truc, et on voit la lune, et voilà, c'est ce souvenir que j'ai voulu évoquer.
D'accord, ouais, c'est très beau, en effet très poétique. Il faut bien le reconnaître, n'est-ce pas?
Mais j'aime beaucoup, ouais, la plongée, c'est un truc que je suis tombé un peu par hasard. On m'a offert un baptême une fois, une bande de potes qui m'ont offert ça pour un anniversaire, et j'ai trouvé ça tellement bien.
C'est de la vraie plongée avec bouteille et tout, on descend, quoi. C'est pas juste du snorkeling. Ouais. J'ai vu deux calamars arriver vers moi, je me suis dit, bon, je vais rester terrien. Mais j'aime bien le milieu marin, mais je suis pas super plongeur. Je ferai pas ce que vous faites en revanche.
Oh, c'est pas.
Oui, mais non. Avec les bouteilles, tout ça, aller très loin, enfin assez loin quand même. Et bon, en tout cas, c'est un univers, en effet, comme je l'avais évoqué aussi un peu avant, chargé de poésie. Bon, évidemment, on peut le trouver ailleurs, mais et vous, visiblement, ça vous inspire beaucoup. Ça vous a inspiré, en tout cas, beaucoup pour cette musique-là.
En fait, c'est un. Après, l'inspiration sur les titres, sur la musique, c'est toujours un peu un mélange de choses. Et ensuite, on couche sur papier, on joue, et puis on. Parfois, on a une idée en tête de d'où ça peut venir, et puis parfois ça vient après. Parfois, on essaye. En fait, on écrit de la musique et on se dit ah ça me rappelle autre chose. ça m'évoque autre chose. Donc, c'est pas forcément antérieur, c'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que bah, cette musique et cet album, j'y ai trouvé des similitudes avec ce qu'on peut vivre dans un monde un peu plus calme,
qui est le monde sous-marin.
Voilà, un peu déconnecté, un peu, je sais pas comment dire. En fait, quand on est sous l'eau, les animaux ont pas trop peur. C'est assez drôle, quoi.
C'est plutôt. Enfin, moi, c'est plutôt. C'est pas que j'ai super peur, mais je me sens vraiment ailleurs. Quoi.
On est étranger, ça,
voilà,
c'est sûr.
Je pense que ça doit être la même sensation que d'être dans l'espace plein du terme, d'être largué, je sais pas où, dans le vide, enfin voilà, voir la Terre de très loin, être dehors, enfin voilà. Et donc là, c'est toujours. Et j'ai vu que vous aviez travaillé avec Karine Bonnefoy, c'est ça?
Ah oui, enfin j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs trucs avec elle, notamment au CMDL, elle était prof d'arrangement,
voilà.
Et puis j'ai participé à elle a fait des résidences avec l'école Arpège, où j'étais invité, parce que en gros ils avaient pas de bassiste.
Ouais, parce que Karine,
Et donc j'ai joué sa musique plusieurs fois, et puis on a longtemps discuté de ce projet avec Karine, puisque comme on se connaît un peu maintenant, et c'est un peu une des personnes qui m'a engagé à poursuivre ce boulot, quoi.
Parce que donc on a accueilli Karine dans une jazz interview également il y a quelques temps, et donc c'était pour son large ensemble, hein, puisqu'elle elle compose plutôt pour grand orchestre, et elle est aussi, enfin en tout cas pour le plus récent, très très influencée par par la mer, l'océan.
Bah elle vient de
Et oui, de Tahiti, Polynésie. Ouais. De Polynésie, oui. Donc, et on avait parlé de ça. Et en effet, c'est très bien. Pas tout à fait de la même façon, mais quand même un peu. Mais surtout la navigation, le côté transocéanique, les longues distances, le fait de... Enfin, bon, ça, vous n'avez peut-être pas l'expérience, mais elle, là, évidemment, c'est le côté grand ensemble. Et là, on est à la tête d'un équipage.
Ouais,
mais malgré tout,
sûr.
Je voudrais juste faire la parenthèse avec ça, fermer la parenthèse avec ça. C'est-à-dire que j'ai lu aussi quelque part écrit sur vous que vous aviez... La personne dit que vous avez un poste d'observateur avec la contrebasse dans ce que vous faites. Mais il y a quand même, moi je dirais observateur, sans doute, mais plutôt côté pilote quand même. C'est-à-dire vous pilotez on revient un peu à ce que Karine fait, mais de façon différente, parce que l'équipage est plus réduit peut-être. Mais je pense qu'il y a ce côté pilote quand même. On peut pas. Comment vous jugez votre
La gestion, en fait, dans de la musique comme ça, assez écrite. C'est vrai que ça nécessite. Alors maintenant, c'est plus trop le cas parce qu'on se connaît bien, ça fait longtemps qu'on joue ensemble, etc. Mais c'est vrai que ça nécessite pour les premiers concerts, pour le début, pour l'organisation, quasiment un boulot de chef d'orchestre un peu, quoi. Et c'est vrai que. Alors, il y a deux visions, c'est-à-dire que si l'orchestre est géré par un instrument soliste. Bah, quelque part, quand il n'est pas soliste, il peut un petit peu, vu qu'il ne joue pas, il peut un petit peu gérer ce qui se passe, lancer des parties.
D'accord.
Donc ça, c'est pratique. Mais en même temps, quand on est bassiste, on joue plus tout le temps.
Ouais, c'est vrai.
Mais justement, on est toujours à suivre le troupeau, entre guillemets. Et éventuellement à relancer, à faire des signes. Ouais. Et donc, c'est vrai que cette position de bassiste en tant qu'observateur, c'est assez vrai. En
D'accord.
fait, même harmoniquement parlant, hein, c'est assez basique. Mais quand on joue de la basse, on fait la partie grave de l'accord.
Ouais.
Et c'est un peu là-dessus que
bien
se
sûr.
Construit
oui, bien sûr,
la,
bien sûr.
La suite de la
Vous êtes un peu le sec de l'ensemble. Hein.
Ouais, fondation François, de la maison.
Oui, c'est ça. On va faire une deuxième pause avec un autre titre de votre choix, qu'on retrouve aussi sur cet album, Le sec et la lune, et on en parle un petit peu après, c'est L'IM.
وعنا منسي لندن
Le titre, c'était Layem, et la chanteuse, c'est Emel Matlouti, et elle et le titre sont sur aussi l'album Le sec et la lune, n'est-ce pas,
tout
François?
À fait. C'est l'invité de l'album.
Guest, en voilà. Plus, parce qu'elle est new-yorkaise un peu plus tôt, je crois.
Alors oui, enfin, elle vient de New York.
Égyptienne?
Tunisienne.
Tunisienne, pardon, qu'est-ce que j'ai dit?
Égyptienne,
c'était... Non, c'était Égyptienne, Riot.
Riot.
Oh là là, mais tous ces voyages, ça me tourne la tête, plus le sous-marin, enfin bon, c'est... moi je suis...
Et donc, Emel, je l'ai connue en Tunisie, parce que au festival international de Carthage,
ouais.
Où elle a fait, avec son groupe, hein, j'étais musicien pour son groupe, où elle a fait une création
Sideman.
Spéciale, voilà, une création spéciale pour le festival avec un orchestre de...
Dans la grande tradition musique arabe, là, les grands orchestres?
Pas du tout.
Pas
alors,
du tout,
justement, elle chante en arabe, mais elle fait une musique... Moi, pour la définir, c'est un peu difficile, mais c'est une sorte de Björk qui chante en arabe.
D'accord.
Donc, elle a vraiment un univers très personnel, avec des compos très personnels. Et donc, pour cette création, il y avait un orchestre classique. Donc, il y avait une quinzaine de... Non, on était même 18.
Ah ouais.
18 musiciens classiques. Il y avait... C'est vrai, des percussions tunisiennes.
Mmh.
Son groupe à elle, hein, avec qui elle tourne dans le monde entier. Mmh. Et on a passé une semaine là-bas à bosser, donc un concert spécial avec des arrangements spéciaux pour faire un concert.
Ça, c'était quand, pardon?
Ça, c'était l'été 2017.
D'accord.
Et en fait, on est resté en contact. Moi, j'aime beaucoup sa musique, j'aime beaucoup la personne. Et je lui ai proposé d'écrire un arrangement sur un de ses morceaux, donc l'IM, et qu'elle le chante avec nous, quoi, qu'on fasse une reprise en fait, d'un de ses morceaux. Et voilà, et ça a donné ce morceau qui est un peu différent du reste de l'album, forcément, parce qu'il y a une chanteuse. Mais je trouve qu'il y a quand même pleinement sa place. Je sais pas, c'est un peu différent, mais
bien sûr. Et puis donc et puis vous le faites en concert aussi. Donc voilà. quand c'est pas Emmett qui vient, c'est Climène Zarkand d'ailleurs, je crois, principalement, qu'on connaît bien maintenant ici avec Sarab.
Oui, vu qu'elle habite à New York, c'est pas très facile.
Ouais, voilà, c'est moins aisé que de la faire venir pour les. Ou alors faut bien se préparer longtemps à l'avance. Et donc en effet, ça fait. Quelle était la vous l'avez un peu dit là, mais. Dans cette suite quand même de titres, de thèmes de du sec et la lune, ce morceau, cette chanson, vient comme ça. C'est plutôt comme une respiration où on essaie d'ouvrir sur autre chose, puis finalement après on est, je sais plus à quelle place il est exactement.
Il est un peu au milieu.
Il est pile au milieu, oui, c'est ça.
En fait, c'était un peu ça, parce que justement, sur le premier album, en fait, j'avais écrit le truc comme une suite de compos, et en fait, j'avais envie de faire une reprise très, on va dire, une mélodie très simple pour conclure l'album, et c'était une reprise de Mathieu Chédid.
Ouais.
C'était une musique de film écrite par Mathieu Chédid, le film Ne le dis à personne. Et donc là, au début, je partais un peu sur la même idée, c'est-à-dire de mettre un peu ce titre qui est un petit peu différent en bonus track, un peu en morceau de fin.
Il est en quatrième position
quand on s'est fait tous les nœuds au cerveau pour définir l'ordre des morceaux.
Compliqué, ça, le track listing, comme on dit.
On a essayé beaucoup de choses et en fait, petit à petit, l'IM est remonté d'une place, puis deux places, puis trois places, puis finalement il s'est retrouvé en quatrième position. Voilà.
Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il y a 10 titres, enfin un qui est en double, on verra, d'ailleurs on en parlera un peu après, mais c'est ça, oui, vers le milieu, en quatrième position, il y a donc l'IM qu'on a entendu il y a quelques minutes. Alors, on replonge, c'est génial, dans un peu plus dans le détail, on va y aller, pour pas toucher le fond, j'espère, on va remonter après au bout d'un moment, et de l'album, donc le sec et la lune, on a parlé dans la première partie de l'émission des cordes, donc du quatuor à cordes, et puis donc un peu, alors c'est des cordes aussi, mais c'est la guitare, et la guitare de Casagrande qui est vraiment
pas n'importe qui.
Et ouais, et c'est, alors moi j'ai déjà vu un peu en live aussi, et j'ai eu cette chance là, et c'est vrai que Federico il a une façon, j'avais l'impression, il y a quelqu'un qui compare à une harpe, c'est vrai, et moi j'avais l'impression il joue c'est des petites, enfin comment dire, c'est, j'ai l'impression que c'est une toile d'araignée, puis qu'il y avait des perles, des gouttes de rosée, puis qui se baladent dessus, enfin c'est extraordinaire.
Il est hyper fort là-dedans, il est vraiment, tout ce qu'il fait c'est ultra musical, et c'est il est hyper fort,
délicat,
mais c'est vrai qu'on se perd un peu dans les images, mais c'est vrai qu'il est hyper fort pour saupoudrer les bonnes notes au bon moment.
Ah ouais, c'est fabuleux, ouais, c'est sûr.
Et c'est vrai qu'il il est très très fort là-dedans. Il a une musicalité incroyable. Et c'est vrai que ça sert la partition hyper bien. Et en fait, c'est vrai que c'est assez rare de rencontrer des musiciens comme ça qui ont cette capacité à jouer ce qui est écrit. Mais
ça,
aussi,
c'est ça que je voulais dire. Ça reste très écrit, ça.
Oui, enfin, ça dépend des parties, en fait. C'est pas toujours le cas. Et en fait, il réussit à s'approprier la partition assez vite, en faire quelque chose un peu à lui. Et parfois, il en sort. Et parfois, il n'en sort pas. Et c'est rarement des erreurs, quoi. C'est souvent bien choisi. C'est souvent bien pensé.
Oui, bien sûr. Et en effet, ça participe beaucoup cette ambiance de rêverie qui est quand même aussi au cœur.
Il a apporté musicalement parlant une sorte de liberté, en fait, c'est-à-dire que c'est très écrit. Moi j'avais vraiment pensé le projet du côté arrangement, écriture, etc., et en fait il a apporté des passages improvisés très libres.
D'accord.
Souvent où on est tous les deux, d'ailleurs, où c'est contrebasse guitare.
Uh-huh.
Et ça, on peut. Ça, c'est vraiment une influence qu'il a apportée dans le groupe. C'est-à-dire que c'est. Je sais pas si on aurait autant fait ça si ça avait pas été lui, par exemple.
Bien sûr, bien sûr. Oui, bah, c'est important.
Et c'est vrai que bon, voilà, ces passages improvisés à deux, là, c'est du bonheur. Hein.
Alors, on va refaire un peu le line-up. On va faire comme si on se saluait le public maintenant. Donc, au violon. Violon, il y a Bastien Ribaud, c'est
Bastien
ça ?
Bastien Ribaud.
À l'alto, c'est à ça, l'alto. Je ne dis pas de bêtises. Aude-Marie Dupéré. Maxime Berton à la clarinette et au sax soprane.
Tout à fait.
Clarinette basse, en plus, pardon. Donc Federico, on vient d'en parler, Casagrande à la guitare. Et puis vous, François Poitou, à la contrebasse. Voilà, ça c'est la formation.
Ça c'est l'équipe,
l'équipe A.
Total. L'équipe A,
et puis parfois, donc soit Emel ou voilà. Kimen, selon la disponibilité de l'une ou de l'autre pour chanter. Voilà. Mais ils ne viennent chanter que l'AIM ou il y a des impros, des choses
Là, en concert. Bah, en fait, là, ça va être la grande première en fait. Hein.
Là, en effet, il y a une date importante.
Donc la date, le 4 juin, au sud de l'Ermitage. Parce que l'AIM, l'arrangement en question, on l'a joué, on a fait une vidéo ensemble, puisque le jour où elle est venue enregistrer sa voix, on a profité pour faire une vidéo tous ensemble, etc. Uh-huh. Donc on l'a joué en live, mais on l'a jamais joué en public, donc ça va être la grande exclusivité le 4 juin, puisque bon, depuis qu'on a enregistré l'album, on n'a pas vraiment revu, si moi je l'ai revu en fait, mais pour enregistrer des cordes sur son album en fait. Mais donc on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas rejoué ce morceau en live. Et après, on verra au gré des dates et des expériences, on va dire.
Alors, avant de terminer cette émission, François Poitou, je voudrais pas qu'on se quitte sur un malentendu. Je suis désolé, mais il fallait la faire, quoi. Je voudrais pas qu'on se quitte sur un malentendu, mais la fin de l'album, c'est quand même un titre qui s'appelle Malentendu.
Ouais.
Le titre, c'est Malentendu. En plus, vous le faites en deux parties. Il y a une partie 1 du malentendu, puis comme si c'était pas assez, on revient, qu'on double. Non mais là, c'est exceptionnel de clôturer un album par un titre comme ça, malentendu.
Ouais, en plus c'est un titre qui a eu plusieurs histoires, parce qu'en fait, il s'appelait pas comme ça, puis j'étais pas très satisfait du titre.
C'est dédié à...
Et en fait, non, mais le malentendu, c'était plus... En fait, il y avait une autre métaphore derrière tout ça. Qui était un peu tout à l'heure, on a parlé de la plongée, le fait d'être étranger. En fait, il y avait, moi j'ai beaucoup aimé L'étranger de Camus, et donc il y avait un peu aussi tout ça. Et d'ailleurs, le clip en animation qui va sortir plus tard sur un des titres, ça reprendra un peu ce thème. Et en fait, le malentendu, c'est une des pièces écrites par Camus dans le cycle de l'absurde. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant comme titre, parce que c'est vraiment un morceau en deux parties distinctes où il se passe vraiment. Alors, mais pourtant, il a vraiment été écrit en une fois. C'est-à-dire que, la première partie, la deuxième partie n'ont rien à voir, musicalement parlant. C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est très barrée, qui est très, ça part un peu dans tous les sens, et puis ça se résout,
et puis on
rentre dans un truc hyper apaisé.
Absolument.
Et donc voilà, c'était une sorte de malentendu, ce morceau. C'est-à-dire que on pense que ça va quelque part, et en fait, ça va pas du tout par là, ça va ailleurs, quoi.
Ah, c'est parfait. Ouais. J'adore ça. Bon, François. On va se dire au revoir parce que c'est comme ça, il faut arrêter un moment et c'est maintenant. Donc c'est pas le malentendu en une ou deux parties ou pas qu'on va entendre, mais on va entendre le titre éponyme. Ah, à chaque fois que je peux le placer, c'est souvent maintenant. Le sec et la lune, qui est la plus longue pièce de l'album, qui fait 7 minutes et des poussières de secondes, mais c'est pas grave, on va le passer en entier normalement. Je regarde la chef. Oula, ouais, si, non mais elle adore. Et donc le sec et la lune, c'est aussi le titre de l'album. Et puis le 4 juin, pour ceux qui auront la chance d'être à Paris, au studio de l'Ermitage, très belle salle aussi, sympathique et tout.
Très belle salle.
La release party, comme on dit.
Tout à fait.
À New York, on parle anglais. Merci beaucoup, François
Poitou.
Merci
à vous, merci de m'avoir invité.
Et à très bientôt.
À très vite.